Alors bonjour à tous, heureux de vous revoir comme chaque fois. Alors après avoir parlé de physique quantique, nous allons non pas sauter du coq à l'âne, mais passer d'un mythe à l'autre. Non pas que la physique quantique soit un mythe, mais enfin elle pourrait devenir dans un futur lointain et de façon rétrospective ce que nous appelons un mythe. Alors je suis très heureux d'avoir tous mes intervenants, on a commencé avec un petit peu de retard. Donc sur un panel qui est titré « La machine mythologique », mais vous allez voir qu'on va essayer d'interroger ce titre en lui-même et de voir au final comment on peut donner plusieurs sens au titre de cette table ronde. Alors tout d'abord, je vous les présente, même si certains, ou pour ne pas dire tous, ne sont plus à présenter. Alors je vais commencer par Lev Grossman, ici présent, et c'est un grand honneur pour moi de l'avoir sur cette table ronde, et puis pour les Utopiales de l'avoir dans ce festival. L'auteur donc de la trilogie des magiciens, énorme succès et qui réinvente complètement le thème de la magie et le thème du magicien avec une approche encore très différente et très novatrice par rapport à tout ce qui a été déjà publié sur cette thématique-là. Donc Lev Grossman, merci beaucoup d'être ici. Je crois que c'est la première fois que vous venez aux Utopiales, il me semble que c'est la première fois. Ensuite, alors on a essentiellement des auteurs, mais pas que des auteurs, vous allez voir. Tout au bout là-bas, vous avez quelqu'un qu'on ne présente plus, qui a été le président des Utopiales pendant des années, qui est aussi l'un des plus importants auteurs français, Pierre Bordage. Ravi de te retrouver, Pierre, sur une table ronde. On n'a jamais eu le temps de discuter, donc là, voilà, au moins on va pouvoir le faire. Voilà. Et puis tu vas nous parler de la place du mythe dans ton travail. À côté de Pierre, on a Denis Vidal. Denis Vidal, qui est anthropologue, qui travaille spécialisé sur l'Inde, et qui vient aussi pour la première fois, il me semble, aux Utopiales, c'est une première. Vous savez que les Utopiales, c'est aussi le lieu où on fait se rencontrer les scientifiques, les chercheurs, les auteurs, et on essaye de voir justement comment la créativité des uns et des autres peut se rencontrer. Donc j'espère que Denis, déjà cette présence aux Utopiales est une occasion de changer peut-être un peu les perspectives, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc Denis Vidal. À côté de lui, Philippe Baudouin aussi, qui travaille à France Culture. Lui aussi, je crois que c'est la première fois qu'il vient aux Utopiales, il me semble.
Tout à fait. Oui.
Donc voilà, pour parler des mythes, on a pas mal de premières fois qui viennent nous rejoindre, qui ont chargé de réalisation, et qui travaillent notamment sur Walter Benjamin. Donc logiquement, on va pouvoir aussi parler du mythe chez Walter Benjamin, et puis de l'utopie, ça m'intéresse en particulier aussi, bien évidemment. Et puis enfin, à côté de moi, Stéphane Przybylski. Je prononce bien ? Przybylski, hein, j'ai quand même raté, hein, pourtant j'avais répété. Stéphane Przybylski, donc auteur du Bélial, hein, auteur au Bélial de ce qui est une trilogie mais qui va devenir une tétralogie. Une tétralogie qui s'inspire évidemment d'une autre tétralogie extrêmement connue qui est la tétralogie de Wagner, avec le château des millions d'années, le cycle Origine s'appelle, et le prochain tome qui sort s'intitulera
Le crépuscule des dieux.
Le crépuscule. Voilà, le crépuscule des dieux, le quatrième tome. Donc voilà une table ronde assez importante, assez vaste, avec des chercheurs, des responsables de diffusion et de médias culturels très importants, et puis des auteurs qui ont tous travaillé de façon proche à ce que signifie un mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Quelle est la part de mythologie dans la science-fiction? Quelle est la part de mythologie dans l'imaginaire? Et puis surtout, cette fameuse machine mythologique, comment on peut comprendre ce sujet? Alors avant de leur donner la parole, moi j'aimerais vous dire qu'en préparant cette table ronde, je vous ai écrit à tous, mais en fait j'ai continué moi à réfléchir de mon côté, je me suis dit qu'il y avait deux sens à donner à ce titre. Le premier sens, c'est l'adjectif mythologique, n'est qu'un épithète, c'est-à-dire la machine mythologique. À ce moment-là, on va se pencher, on va peut-être le voir avec eux, sur la manière dont on trouve des machines dans les mythes les plus anciens. Et c'est un peu le résumé de la table ronde qui nous invitait aussi dans cette direction, à aller dans cette direction. Mais on pourrait voir, et je me tourne vers vous aussi, une autre façon de voir le sujet, qui serait de faire de l'adjectif, non pas un épithète, mais un attribut. C'est-à-dire que la machine est mythologique. Et cette machine qui est mythologique, c'est la machine de notre temps, c'est la machine de notre présent, et c'est ce qui s'exprime souvent dans la science-fiction, ce mythe de la machine parfaite, ce mythe de la machine idéale. Donc c'est ces deux chemins d'exploration que je vous propose comme point de départ. Et puis bien sûr, nous irons aussi vers vous, hein, le public, pour poser des questions. Alors peut-être on va commencer par une approche simple en fait du mythe, hein, simplement la place du mythe dans votre travail. Peut-être Lev Grossman, pour commencer, dans votre trilogie des magiciens, quel est, Quel a été le rôle du mythe? Est-ce que votre inspiration sur les magiciens est d'ordre mythologique? Est-ce que le projet du roman était vraiment centré sur cette idée de mettre en avant le mythe? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est venu complètement après et qui n'est pas sur la fondation même du récit? Est-ce que le projet était mythologique?
Nothing comes after mythology. Mythology outlives everything. For my work in particular, the curiosity of the magicians arises in part from the fact that it's retelling classic myths, including the immortal myth of Harry Potter, but telling them in the manner of using the rhetoric and the style of realism, with the goal of, in a way, resuscitating myths that have perhaps feel as though they've lost their force or their relevance. They've ceased somehow to tell us about ourselves. One of the things I tried to do was simply rearticulate them, just very basic stories about people discovering that they have power that they didn't know that they had, or discovering a world that no one else knows exists. Trying to retell those stories, but using the sort of verbal technology of realism. So if you take a story like Narnia already less than 100 years old, it feels a little cartoonish. You look at it and you think, well, how does the economy work? What's the ecology of Narnia like? How does technology function in Narnia? Mrs. Beaver has a sewing machine, but everybody else, which is a Victorian artifact, but everybody else is working with feudal level technologies. How would you take that idea and rearticulate it in a way that feels powerful and relevant now? So as I said, you know, mythology, it never dies, but it has to be rearticulated, rebooted periodically. And that was the project of the magicians.
Ok, donc on est parfaitement dans le sujet, le mythe comme ressource, et la science-fiction et l'écriture comme ressource, retour au mythe. Alors on est en plein dans le sujet avec Stéphane Przybylski ici. Est-ce que vraiment cette tétralogie qui est en cours d'écriture encore, hein, qui est en train d'être finie, c'est un retour sur le mythe wagnérien uniquement, mais ou c'est autre chose? Est-ce qu'il y a une revisitation et comment, quel a été le rapport avec le mythe?
Il y a à la fois le mythe du surhomme, et le mythe du chevalier, donc chevalier du Moyen-Âge, et essayer d'associer les deux. Le chevalier du Moyen-Âge est, à travers l'histoire de Tannhäuser, le chevalier en quête de rédemption, donc un opéra wagnérien, et le mythe du surhomme, parce que donc, le personnage central de la tétralogie, je ne dis pas le héros, mais le personnage central, il est nazi, compagnon de route d'Adolf Hitler de la première heure, agent de renseignement SS, et donc c'est un peu l'histoire du chevalier en quête de rédemption. Après, l'histoire dira si la rédemption ou pas, ou si la rédemption est possible dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est un peu ce mythe-là qui est exploré, avec effectivement une part de mythe de surhomme qui, elle, donc va s'ancrer évidemment dans d'autres univers.
D'accord, donc là aussi, on est vraiment dans la même longueur d'onde, oui. dans la même logique. C'est intéressant parce qu'en plus, ta série, enfin, donc Origine, hein, c'est le titre Origine. Global aux éditions Le Bélial, a connu d'ores et déjà un grand succès, un succès critique très important.
Tout à fait.
Et je pense que ça montre aussi à quel point aujourd'hui la science-fiction a besoin de se reconnecter au mythe. Et quand bien même on insiste beaucoup sur la science et sur les aspects scientifiques de la science-fiction, on voit bien qu'on reste toujours sur le même type d'histoire, la même façon de revenir aux histoires fondamentales, aux histoires peut-être anthropologiquement les plus essentielles de l'humanité. Alors je finis d'abord la partie avec les auteurs. Pierre, hein, Pierre Bordage, toi en tant qu'auteur, quelle est la place du mythe dans ton travail? Est-ce que la science-fiction est une machine mythologique aussi de ton point de vue quand tu écris? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est délibéré? Ou est-ce que ça vient?
Alors oui, je pense que le mythe est très important, la mythologie est très importante dans mon travail. Ça vient du fait que quand j'étais môme, je lisais énormément de mythologie. Je n'ai jamais cherché à essayer de comprendre les mythologies, mais à essayer de les ressentir. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les mythologies appuyaient sur des boutons inconscients humains, qui étaient des sortes de ressorts spécifiques à l'humain. Et quand j'ai écrit de la science-fiction, du coup, parce que j'ai découvert la science-fiction assez tard, à l'âge de 18 ans à l'université. Et pour moi, mon premier livre de science-fiction, qui est Chronique martienne de Ray Bradbury, était la continuation. Enfin, j'ai eu le même coup de cœur en lisant ce livre, le même vertige que quand je lisais des mythologies enfants. Et donc, je me suis dit, voilà, la science-fiction est peut-être la littérature mythologique moderne, d'une façon ou d'une autre, réfléchissant sur la nature de l'être humain en même temps que les évolutions technologiques. Et donc, naturellement, je me suis inscrit dans cette veine-là qui est de me servir simplement comme un charognard, quasiment, du socle des mythologies. J'ai l'impression de ne rien inventer dans le récit. Je pense que le récit, il est déjà installé depuis les conteurs de l'Antiquité et que je ne fais que m'inscrire dans ce sillon-là tout en réfléchissant éventuellement sur les évolutions modernes de notre civilisation.
Oui, pourtant, c'est vrai que dans la science-fiction, il y a toujours ces deux aspects entre, d'un côté, le conte, le conteur, et tu fais partie des conteurs, indiscutablement, mais il y a aussi toute cette partie spéculative autour de la science, des applications scientifiques, etc. Est-ce que ça trouve aussi racine pour toi dans le mythe, ou est-ce qu'il y a vraiment deux parties
Mais je pense que la science-fiction a un grand intérêt, finalement. J'ai fait de la science-fiction de façon un peu spontanée, justement par rapport au vertige éprouvé avec les mythologies. Puis en analysant, je me suis rendu compte qu'elle avait trois intérêts majeurs associés qui en font un genre très particulier et un genre très très riche. Premièrement, le merveilleux voyage au sens de Jules Verne, hein, c'est-à-dire qu'on invite, convie le lecteur à un décollage de son espace-temps pour offrir quelque chose de différent, extraordinaire. Deuxièmement, le fait de se projeter hors de l'espace-temps fait qu'on a un effet loop sur notre présent. C'est comme si on montait haut de la fourmilière et qu'on voyait les mouvements en germe dans notre présent et qu'on était mieux à même finalement de les étudier. Donc ça amène une pierre de réflexion au présent. Et puis troisièmement, elle reprenait les interrogations philosophiques essentielles qu'on trouve depuis la nuit de l'humanité, enfin la nuit de début de l'humanité dans les mythologies du monde entier, parce que je ne lisais pas seulement la mythologie gréco-latine, mais aussi les mythologies indienne, africaine, etc. Et donc, il y a toujours ces interrogations fondamentales qui sont posées et que l'on continue par la science-fiction. Donc, ces trois associés en font un genre particulièrement intéressant.
Oui, et puis c'est vrai que la philosophie a pris la suite en fait du mythe, hein, d'une certaine manière. Enfin, c'est comme ça qu'on présente traditionnellement les choses. Mais le mythe au départ, et là, je vais me tourner vers Denis Vidal. Hein, quelle que soit la société concernée, le mythe est un protocole d'explication du monde, une manière de rendre le monde à la fois perceptible et acceptable, exactement comme la philosophie ensuite va chercher à le comprendre. Alors pourquoi, Denis, en tant qu'anthropologue, pourquoi aujourd'hui cette place si importante du mythe, qu'on voit bien là, à travers les trois témoignages des auteurs présents, est au cœur du processus narratif de la science-fiction? Comment tu peux l'expliquer avec ton regard d'anthropologue? Est-ce que c'est un retour du mythe sur la scène, ou est-ce que le mythe a toujours été là finalement et il a simplement pris d'autres noms au cours de l'évolution de l'expression artistique et littéraire?
Je me sens tout à fait incapable de répondre à cette question, mais je pense que ta deuxième réponse, c'est dit intuitivement, je pense que ta deuxième réponse est la bonne, mais je me sens pas mieux placé qu'un autre pour y répondre vraiment. Par contre, ce que je peux peut-être dire par rapport au thème et à la notion au lien entre machine, mythologie, aujourd'hui, hein, c'est qu'en fait, par exemple, quand on est un anthropologue, on est extrêmement habitué au fait que toutes sortes d'objets, dans toutes les cultures, ne soient pas de pur objet au sens matériel du terme, mais que les gens qui interagissent avec ces objets leur prêtent des propriétés complexes qui vont bien au-delà de leur simple matérialité. Et non seulement ça, mais qu'il y ait une incertitude, du coup, sur le statut même de ces objets. Est-ce que c'est vraiment une simple pierre? Est-ce que c'est un dieu qui a pris l'apparence d'une pierre? Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Alors maintenant, ce qui me semble très fascinant et qui, moi, m'intéressait un peu en m'occupant un peu de robots, c'est que quand on met ces mêmes objets aujourd'hui, par exemple, étant donné ce qu'est notre culture, dans un musée comme celui auquel je travaille, le musée du Quai Branly, ben, quelque part, ces objets peuvent fasciner les gens, mais ils sont néanmoins réduits au statut d'objet, aussi intéressant soit-il. Par contre, si on met, comme on l'a fait, un robot, tout d'un coup, dans le même musée, tout d'un coup, les gens commencent à hésiter si c'est un robot relativement bien fait. C'est-à-dire qu'il interroge les gens, et les gens viennent nous interroger, quel est le statut de cet objet robotique ? Qu'est-ce qu'il peut vraiment ? Est-ce que c'est de la supercherie ? Est-ce que c'est un tour ? Est-ce que c'est une illusion ? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est déterminant pour l'avenir ? Donc, quelque part, on retrouve des questionnements avec lesquels j'étais plus familier en Inde, par exemple, dans l'Himalaya où je travaillais.
Oui, tout à fait, dans la culture indienne. Alors, ce que tu dis est parfaitement en raccord avec le sujet de la table ronde. On était parti sur la place du mythe de façon générale, mais c'est vrai que tu le recadres et tu as parfaitement raison, parce que c'est vers ça qu'on doit aller. Ce que tu as dit me semble au cœur du processus narratif de la science-fiction, en fait, c'est-à-dire investir des objets avec ce qu'ils représentent pour nous, ce qu'ils nous disent de nous-mêmes et la place qu'ils tiennent dans nos propres vies. Et ces machines, c'était exactement le sujet du cours du soir de Xavier Mauméjean hier, qui traitait notamment des androïdes, rêvent-ils de moutons électriques, de Philippe K. Dick, où Philippe K. Dick disait lui-même dans le roman, voilà, ces petites choses électriques qui ont leur forme de vie parce que nous leur prêtons, nous investissons notre humanité dans cette forme de vie. Donc au fond, l'humanité, ce serait ce qui produit du mythe, finalement. Et la machine mythologique, elle est mythologique parce qu'elle nous est utile à nous pour dire quelque chose de nous. Et c'est ce qu'on trouve bien dans ce que tu présentes. Et effectivement, par rapport au Quai Branly, l'expérience du robot Berenson, hein, c'est bien ça, qui a permis de mettre en rapport ça. Alors, Philippe Baudouin, qui n'a pas encore pu s'exprimer, le temps passe très très vite, je suis désolé. Alors Philippe, toi, en tant que philosophe, lié à France Culture, dont beaucoup à la communication, et spécialiste de Walter Benjamin, quelle est la place du mythe dans ton travail ? Comment tu perçois la place du mythe, notamment de cette machine mythologique aujourd'hui ? Est-ce que les gens, est-ce qu'on a un appel vers le mythe aujourd'hui de plus en plus marqué ? Est-ce que c'est un retour ? Est-ce que ça a toujours été là ? Comment tu peux le voir ?
Je vais peut-être piocher parmi toutes ces questions pour essayer de me frayer un chemin. Non, déjà peut-être insister sur une chose, c'est la nature même de la machine en fait. Peut-être dire tout simplement que la machine est une entité foncièrement ambivalente et du coup assez insaisissable qui, d'une certaine manière, fait appel aussi à une certaine forme de fascination qu'on peut avoir pour l'irrationnel, parce que je pense que la machine contient en elle-même les germes de la déraison, en fait, d'une certaine manière, pour le dire très rapidement. Et cette déraison, elle est caractéristique du mythe. Lorsque vous disiez tout à l'heure qu'effectivement vous posiez la question de savoir si la philosophie dans son histoire avait prolongé d'une certaine façon les récits propres à ce différents mythes qu'on a tous en tête, pour Walter Benjamin, sur lequel j'ai énormément travaillé, précisément pas, absolument pas, puisque le mythe pour lui, en tout cas, donc Walter Benjamin, penseur allemand de l'entre-deux-guerres, écrivain, collectionneur, philosophe, un grand penseur de la modernité, s'est intéressé précisément à cette question du mythe. Et il expliquait à juste titre que le mythe est un univers clos, c'est un lieu d'enfermement. C'est un lieu d'enfermement à tel point que il l'a rapproché dans sa critique de la doctrine nazie, justement de toute la rhétorique nazie, de toute la manière d'accorder à tel ou tel homme une valeur particulière, etc., etc. Toute la déconstruction critique, extrêmement critique du nazisme que Walter Benjamin a pu produire, il y a une contestation, il y a une remise en question profonde du mythe, même si lui a essayé de s'aventurer dans le monde de la forêt mythique. S'il y a bien une image du mythe pour Benjamin, c'est celle de la forêt. la forêt qui commençait est le lieu de refuge des sorcières, des monstres. Il n'y a pas de récit fantastique sans une place importante accordée à la forêt. Et Benjamin avait précisément senti cela, et lui disait toujours qu'effectivement il fallait se préserver des forces mythiques. Et les armes dont on pouvait qu'on pouvait utiliser pour combattre les forces mythiques se trouvaient précisément dans la philosophie et dans le monde littéraire, dans le conte. Le conte est une manière de s'opposer au mythe, parce que le conte détient la puissance de la ruse, en fait. Et c'est en cela, justement, que le conte peut devenir émancipateur, une force d'émancipation. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il a rédigé une centaine de contes radiophoniques pour enfants, pour adolescents, dans les années 30, au moment même où Hitler accédait au pouvoir. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est cette critique, précisément, du mythe, parce que, justement, cet appel pour l'irrationnel, cette appétence qu'on peut avoir, cette fascination qu'on peut avoir pour les forces mythiques, mérite d'être déconstruite, comprise et déconstruite, pour comprendre justement cette forme d'attraction qu'on peut ressentir à l'égard du mythe. Juste une chose peut-être pour terminer là-dessus, à partir des travaux dont je parlais tout à l'heure sur cette folle machine de Thomas Edison, il y a, je pense, justement dans ce que j'ai appelé le nécrophone de Thomas Edison, donc en deux mots, cette machine que Thomas Edison a tenté de conceptualiser pour enregistrer ce que lui pensait être la voix des morts, il y a, je pense, une projection, une dimension très importante de projection mentale, en fait, de fantasme. Et vous le disiez, on le disait tout à l'heure, il y a une dimension proprement psychanalytique, psychologique aussi, de projection de l'inventeur dans un projet, une manière de voir à travers la machine, de penser pouvoir peut-être découvrir des degrés de réalité insoupçonnés. Et le nécrophone en fait partie. Le nécrophone, si on veut, c'est l'autre nom donné au phonographe. C'est l'autre nom donné à cet outil d'enregistrement du son, de la voix, qui est poussé à son extrême limite. En fait, le phonographe est presque le monde émergé d'un univers complètement insoupçonné, immergé, lui, en fait, partie immergée de l'iceberg, qui serait justement composé de démons, de merveilles, de monstres, etc., et qui serait relié d'une certaine manière, voilà, face A, face B, si on peut dire, comme un disque. Il y aurait cette image-là, effectivement, de ce qu'un philosophe new-yorkais qui s'appelle Eugene Thacker a énormément réfléchi, qui est la question des antimédias. L'antimédiation désigne précisément un champ composé de machines, mais de machines qui explorent différemment, en se basant sur les mêmes principes, la réalité. Et le nécrophone permettrait justement, en détournant les usages habituels du phonographe, d'avoir accès, par exemple, à la voix des morts.
D'accord. Alors, très intéressante intervention, bien entendu, sur l'aspect... Alors déjà, il y a deux choses, moi, sur lesquelles je voudrais revenir. Je pense que Stéphane veut réagir par rapport à la mythologie de la forêt, je pense. Oui. Et puis, je reviendrai tout à l'heure sur l'opposition conte et mythe, qui m'intéresse aussi.
En fait, moi, c'était sur les germes de la déraison, en fait, et sur les idées d'enregistrement. C'est-à-dire que Himmler, le tome 2 de la tétralogie des origines, donc, ça s'appelle le marteau de Thor, ça fait directement référence donc, à cette recherche de Himmler pour donc créer des armes supposées nouvelles à partir justement des mythes et justement des mythes scandinaves. Et sur les idées d'enregistrement, c'est de dire, de dire que quelqu'un comme Himmler, donc un assassin patenté, était d'abord quelqu'un qui faisait enregistrer le chant des sorcières en Scandinavie et essayait de percer des secrets supposés qu'il pouvait y avoir dans ces chants. Donc quelqu'un, un germe de la déraison, enfin voilà, pour moi c'est l'idée de dire, ce sont des gens qui peuvent s'appuyer sur des mythes pour à la fois tenter de développer des armements et donc des technologies futuristes, complètement révolutionnaires, sur une base complètement, entre guillemets, farfelue, hein, et en même temps capable d'échafauder à l'échelle d'un pays et d'un continent, le continent européen, des massacres de masse, d'un point de vue très administratif, très, très rigoureux, avec une probité à toute épreuve. Donc voilà, une espèce de dualité.
Oui, oui. Par rapport, Pierre et Lev, par rapport à cette opposition conte et mythe, est-ce que le conte, c'est très intéressant, parce que la science-fiction a recours au conte aussi, bien évidemment, l'imaginaire a recours au conte, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette opposition entre le conte et le mythe? Est-ce que le travail de Lev Grossman, par exemple, sur les magiciens, est-ce qu'on est du ressort du conte, ou est-ce qu'on est, comme on le disait tout à l'heure, dans la redécouverte du mythe? Est-ce qu'il y a une volonté de brusquer le mythe, de le remettre en cause? Et puis, il y a autre chose sur lequel je voudrais revenir aussi, sur ce qu'a dit Philippe Baudouin, la rationalité par opposition au mythe. Moi, je ne suis pas certain que le mythe soit pas une forme de rationalité désuète, ou une forme, parce qu'il y a une rationalité propre au mythe. Il me semble que Georges Dumézil le montre bien aussi. Et du coup, voir le mythe comme quelque chose de nécessairement irrationnel, c'est un peu comme quand on voit la magie, par exemple, comme quelque chose de nécessairement irrationnel, alors que dans bien des œuvres, il y a une mécanique magique qui est tout à fait rationnelle dans sa construction. Donc peut-être j'aimerais bien une remarque de Lev Grossman ou de Pierre Bordage sur cette opposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opposition entre le conte et le mythe?
J'avais jamais réfléchi à ça. Alors, le côté danger du mythe, je pense que c'est l'interprétation du mythe qui est dangereuse, pas le mythe en lui-même. Le mythe en lui-même, il est là pour être exploré. Maintenant, dès qu'on essaie de le comprendre, on va l'attirer à son propre système de pensée, donc on va le déformer, on va l'utiliser. Et donc, à ce moment-là, ça ne devient plus un mythe, ça devient une idéologie. Donc, je ne pense pas que ce soit le mythe qui soit à remettre en cause, mais parce que, encore une fois, on comprend. Enfin, dès qu'on veut intellectualiser le mythe, je pense qu'on est un peu à côté de la plaque. Je pense que ce qu'il faut, c'est le vivre. Le vivre, ça veut dire le ressentir d'une façon ou d'une autre, parce que je pense qu'il ne parle pas aux gens de la même façon, selon son intérêt du moment. Quand vous le lisez enfant, vous n'avez pas tout à fait la même vision du mythe, la même plongée dans le mythe que quand vous êtes adulte, etc. Donc, à mon avis, ce sont des espèces de... Mais c'est qu'un avis. Hein. Ce sont des espèces de données universelles qui peuvent marcher à n'importe quelle époque, n'importe quel âge, avec des façons différentes, comme s'il y avait des boutons, comme je disais tout à l'heure, sur lesquels on appuyait pour... par rapport au conte, je vois pas trop de différence, parce que le conte... j'ai l'impression que la personne dont vous avez parlé, là, qui s'appelait comment ?
Walter Benjamin.
Walter Benjamin, il justifiait le fait qu'il écrivait des contes, finalement. C'est-à-dire... quelque part un peu, c'est-à-dire j'écris des contes en opposition au mythe, parce que le mythe c'est quelque chose de négatif, parce que les nazis l'ont utilisé ou l'ont intellectualisé d'une certaine façon, donc j'écris des contes qui sont une sorte de contrepoint, mais c'est une histoire personnelle, j'ai l'impression plutôt.
Lev Grossman, sur le rapport au conte, l'opposition conte et mythe, est-ce que dans votre travail?
It's a very interesting topic. I think about myths as almost they're almost this sort of viral entity that live. You know, myths live inside us, and they are transmitted through time over generations and reproduce themselves, you know, in our minds and almost like a parasitic organism, and they have a way of possessing us and telling us what to do, as in the Nazis. Example, they have no empathy. They have their own agenda, they are, I think, very often unrelated to morality in any way whatsoever. And as a result, especially when you're writing about them in a modern idiom, they do on occasion, require radical corrections. I write fantasy. I don't write horror. But there is a moment in The Magicians, the second Magician book, where the book veers into horror, and it's when it retells a mythological story, which is a common one in, for example, Greek mythology, the rape of a mortal by a god. This is a story which appears in Greek mythology quite often, and it has it can be read, I think it frequently is, read in a way that kind of normalizes rape. You think of the story of Leda and the swan, you know, which it's not told as horror. It's sort of quite, oh, that happened. That's quite fascinating. Must have been quite interesting for Leda to be raped by a swan. I tried to retell that story in the second Magician's book. It's the most horrifying thing I ever wrote. And I was very conscious of reinscribing a mythological story in a way that give it a very different meaning from the one that it traditionally had. And I felt that, you know, I'd read that story many times, and yet when I tried to articulate it, I had to push very hard against the grain and very hard against the story's own agenda to make it something that I felt okay about, giving some viral reproduction to.
J'ai assez l'impression que finalement, dans tous vos témoignages, finalement, on est plus en train de dire que l'imaginaire, la création, est plus d'ordre mythique que mythologique. C'est-à-dire la mythologie, c'est un discours sur le mythe, un discours intellectualisé, un discours critique, c'est ce qu'a fait Walter Benjamin, d'une certaine manière. Et donc, c'est une manière de s'approprier le mythe, mais par la rationalité d'une certaine époque qui n'est pas la sienne. Alors qu'il me semble que la science-fiction et l'imaginaire que vous représentez ici, au sens le plus large, hein, j'entends bien, pas la science-fiction au sens restrictif, est d'ordre mythique, c'est-à-dire que c'est pas une machine à revisiter le mythe, c'est une machine à retrouver l'essence du mythe. C'est pour ça qu'elle nous fait vibrer, et c'est pour ça qu'on retrouve la quintessence du récit. Et je pense que la raison d'être de cette table ronde, c'est de poser cette question-là. On aurait pu partir, bien sûr, sur les différents modèles de mythes, on aurait pu partir sur Héphaïstos, sur Galatée, sur toutes ces machines que l'on trouve dans les plus anciens mythes grecs, ça aurait été très passionnant, on a encore le temps de le faire. Mais j'ai l'impression qu'ici, on touche à autre chose. On touche à l'idée que la science-fiction, l'imaginaire, comme je dis la fantaisie, je pense science-fiction au sens général, que l'imaginaire que vous incarnez tous, et vous qui le regardez avec le filtre du philosophe ou le filtre de l'anthropologue, renoue avec la notion même de récit. Est-ce qu'on peut... Et c'est peut-être ça dont on a besoin aujourd'hui, peut-être.
Moi, je voudrais dire d'abord que je suis en accord total avec les deux interprétations qui ont été données là de la mythologie, c'est-à-dire en fait l'idée qui est assez classique en anthropologie, justement, que la force du mythe est dans son caractère presque épidémiologique, la façon dont il circule, etc. Aussi, bien sûr, comment il arrive qu'il se fixe. Alors, dans un contexte particulier, mais l'essentiel est d'abord cette capacité des mythes dont témoigne. Et c'est pour ça que je ne voulais pas répondre au début à la question, puisque les auteurs eux-mêmes ont répondu en quelque sorte pour moi. C'est-à-dire que le mythe, ce que nous, on appellerait des mythèmes, les mythes de base, hein, qui ne sont pas l'essence du mythe, mais qui sont plutôt les composants, un peu comme des briques de Lego du mythe, circulent. Et finalement, on voit très bien qu'ils se retrouvent. Alors ça, c'était peut-être le premier point. Puis un deuxième point, si vous me donnez le temps très très rapide, c'est par rapport aux machines. Enfin, bon, on a présenté, comme vous le savez, le nécrophone d'Edison au Quai Branly, vous savez très bien. Et alors, ce qu'on constate, c'est par rapport à l'idée de projection, de psychanalyse, parce que je crois qu'il faut un peu combattre cette idée. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, quand on voit des esprits, etc., et tout, oui, il y a un élément de projection. Mais très vite, un peu comme avec les mythes, comme avec la façon dont les auteurs le reprennent, ce qu'on constate, c'est que toutes les cultures, disons que tout, en tant qu'humain, on a la capacité à avoir en gros de la personne, une notion de personne un peu partout. Mais ensuite, on s'aperçoit que toutes les cultures, quelles qu'elles soient, et même les cultures savantes façon Edison, inventent des machines merveilleuses, et c'est une fonction bizarre des machines dont on ne parle pas souvent, pour identifier ces personnes, ces choses qui ne sont pas encore des personnes. Alors ça peut être le spiritisme, ça peut être Edison, mais ça peut être, même s'il faudrait discuter, mais quelque part la physique. Donc si on regarde l'histoire de la physique, ça s'est passé très souvent avec la notion d'homoncule et des tas d'autres notions. Donc voilà, donc on a une panoplie, un usage comme ça, et nous on avait essayé d'en montrer dans différentes cultures, une panoplie de machines qui sont faites pour créer en gros des personnes, entre guillemets, qui ne sont pas des humains, mais qui ont des traits qu'on attribue aux personnes.
Oui, on confine à l'intelligence artificielle et à la place qu'elle fait aujourd'hui, qui n'est qu'un avatar, l'avatar lointain d'Héphaïstos et de tout ce que le travail. Oui,
et on pense que les robots... Et c'est pour ça qu'on pense que ce n'est pas la peine de paniquer, en gros. Oui, oui. C'est-à-dire que les robots, l'intelligence artificielle, c'est une autre version... C'est une nouvelle version d'une sorte d'une pratique qu'on trouve dans toutes les cultures, à toutes les époques.
Oui, c'est une modalité d'expression de l'humain, quoi. Donc, ce qui est humain, finalement, c'est cette capacité à investir la matière de nos représentations.
Et... des machines compliquées, comme vous disiez, un peu délirantes parfois.
Oui, oui. Alors, très bien. Alors, on n'a pas fini encore. On est parti un peu à l'envers dans cette table ronde. Je plaide coupable. Hein. C'est, de toute façon, quand il y a un truc qui ne va pas, c'est forcément la faute du modérateur. Mais là, ça va quand même vachement bien parce qu'on a, on a eu le temps de dire des choses qu'en général, on aurait commencé à dire vers la fin, dans les 5 dernières minutes, en n'ayant pas le temps de les développer, alors que là, on a pu le faire. Alors, du coup, on vous a laissé sans doute un peu sur votre faim sur toutes les machines dans l'histoire des mythes grecs ou romains qu'on peut trouver, ou même indiens ou autres. Alors, j'aimerais bien laisser la place aux questions. C'est 44, et donc il nous reste encore un quart d'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans le public avant de repartir sur d'autres considérations? Je vois que Philippe veut peut-être réintervenir pour revenir sur Walter Benjamin, notamment. Est-ce qu'il y a des questions sur la place des mythes, la place de la machine dans les mythes, parmi le public ou pas? Non? Ah, oui, où ça? Voilà, là-bas. Allez-y. Le micro arrive. Voilà, allez-y.
Bonjour. Je voulais juste vous poser une question par rapport au fait qu'il y a très très longtemps, ils avaient des mythes à propos de machines du type l'Atlantide, etc. Ils avaient déjà de la science-fiction pour l'époque. Est-ce que dans quelques années, on pourra se dire que la science-fiction actuelle était notre mythologie? Parce qu'effectivement, on parle beaucoup religion actuellement dans les médias, etc. Mais on a un point commun aussi à toutes les civilisations, c'est toujours d'imaginer des nouvelles machines qui vont nous emmener plus loin. Est-ce que c'est devenu notre nouvelle mythologie? Est-ce que la machine est notre dieu maintenant?
Alors, qui répond à cette question? Allez-y.
Je vais répondre de façon un peu provocante, mais Denis a l'habitude. Dieu, c'est exactement comme la machine, quoi. C'est-à-dire, c'est une projection extérieure qui est destinée à nous... À venir à notre haine, en fait, on a toujours... les religions, en tout cas, ont ce principe... Pour moi, les religions, c'est une captation matérielle de la spiritualité. Ça veut dire qu'elles vont apporter des solutions extérieures à nous qui ne vont pas nous aider, finalement, mais au contraire, nous abrutir ou nous enfermer dans des systèmes de pensée. Et j'ai l'impression que la machine fait un peu la même chose. C'est-à-dire dans une volonté de perfection permanente de nous asservir finalement. Enfin, c'est pas de la panique, hein, Denis. C'est juste une réflexion sur cette. Il me semble, ça c'est provocant aussi, je pense, mais que la science n'est qu'une continuité des religions par l'aspect matérialiste des religions. Et il me semble que c'est une sorte d'aboutissement des religions de figer de plus en plus les gens dans la matière. Waouh!
Bon, d'autres commentaires sur... C'est très bien posé, hein. Je vous remercie, hein, madame, parce que vous l'avez très bien dit. Quoi. Est-ce que la science-fiction sera le mythe que l'on... Cela sera ce qu'on regardera demain ou après-demain comme étant les mythes du XXIe siècle? Est-ce que Lev Grossman a l'impression que les magiciens, par exemple, sont ce qui sera considéré comme un mythe sur les origines, la notion de magie, le rapport au monde, le rapport à la magie du monde? Est-ce qu'avec le recul, on peut se projeter comme ça, Stéphane?
Les mythes comme contrôle des masses, parce que de toute façon, si les nazis sont intéressés à la mythologie de cette manière et de façon aussi forte, et en venant justement de milieux ésotériques, etc., enfin avec un intérêt très, très affirmé pour toutes les sciences occultes, etc., c'est aussi parce qu'ils étaient conscients du pouvoir sur les âmes de toutes ces sciences ou pseudo-sciences là. Et y compris aussi de la science. Donc voilà, l'idée d'abord, c'est, selon moi, c'est une idée de contrôle des masses et des consciences des gens. Donc évidemment, la mythologie, elle intervient aussi pour contrôler les consciences des gens et donc les gouverner.
Ok, d'autres réponses? Oui, Denis? Non,
très rapidement, je vais faire comme on en a pris l'habitude là maintenant,
plaisir, ouais.
L'avocat du diable. Donc je pense que le nazisme est, d'une part, si on parlait du nazisme, enfin la raison de son succès est en fait assez peu liée à la mythologie, même s'il a sa place, mais que ce n'est pas ça. Et je pense que, comme on le disait plus tôt avant, je crois que les mythes comme les machines représentent des univers beaucoup plus ouverts Et donc, ça veut pas du tout dire que c'est contraire à l'idée de science-fiction. Mais je pense pas que ce soit que les machines peuvent être utilisées. Il y a eu des machines faites pour enfermer les gens, mais si on regarde l'histoire des machines, c'est une histoire qui part dans tous les sens, en quelque sorte. Et si on regarde l'histoire des mythes, c'est une histoire qui part aussi dans tous les sens, et pas seulement dans le sens du nazisme et de l'oppression, mais dans le sens de comprendre le monde dans des populations de l'Esquimaux du nord-ouest des États-Unis. Voilà, donc c'est peut-être une conception beaucoup moins, beaucoup plus ouverte, enfin, des deux.
Oui, et puis la machine est présente au sens strict du terme, elle est mythologique dans le sens où elle est présente depuis les plus anciens mythes, et on en trouve des tas d'exemples aussi.
Absolument.
Et effectivement, avec une coloration plus ou moins positive ou négative selon l'histoire qui est racontée.
On est incapable de discerner très souvent. Il y a des machines, par exemple des machines animées, hein, l'équivalent de marionnettes animées,
les automates animées. Ouais.
Il y en a qui ont été, depuis le départ, utilisées dans des contextes religieux, dans l'Égypte ancienne, etc. Oui. Il y en a d'autres qui étaient utilisées pour s'amuser.
Ce qui aurait été utile aussi, c'est qu'on revienne sur la définition même de ce qu'on entendait par machine, en fait. Parce qu'on a travaillé sur la distinction entre le mythe et la mythologie, mais bon, on n'aurait jamais eu le temps. Alors, est-ce qu'il y a encore une question avant qu'on cède la place?
Là-bas.
Ah oui, là-bas. Oui.
Bonsoir. Une petite question sur la notion de mythe et de conte. En fait, j'aurais voulu, je suis assez d'accord avec Pierre Bordage, j'aurais voulu savoir quelle était votre définition qui marque la frontière un peu entre les deux, parce que moi, je trouve qu'il n'y en a pas tellement, c'est assez ténu. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis sur la différence entre le conte, le mythe, la légende, même si ce n'est pas trop sur le thème de la machine, mais voilà, sur ce thème-là.
Tout ça en 25 secondes.
On a un peu plus, on a 5 minutes encore, on va les prendre.
Hein. Je vais essayer quand même de les partager avec mes comparses. Non, l'idée étant que peut-être s'il y a une figure qui permet de distinguer efficacement le monde du conte de celui du mythe, c'est celle du narrateur, en fait. Celle précisément sur laquelle a travaillé Walter Benjamin, c'est-à-dire que le narrateur, c'est justement celui qui transmet et en même temps réinterprète de manière subjective pour cette transmission-là, l'histoire, le récit. Et quand je parlais tout à l'heure des forces mythiques que dénonçait Walter Benjamin, hein, j'insiste bien, hein, c'est son optique, en tout cas pour déconstruire ce que lui appelait les forces du mythe, il y a dans cette opposition-là la possibilité d'une émancipation chez lui, une émancipation qui n'a lieu d'être que pour le conte, contrairement au monde du mythe. Et la figure du narrateur est très importante parce que Benjamin, et on revient à la machine, dans la machine radiophonique, va justement occuper précisément cette place, convaincu du fait que la narration est la possibilité d'éveiller à la liberté, à la réflexion, à l'esprit critique, etc., dans un contexte qui est particulier et profondément ambivalent, qui est celui de la radio. La radio, comme on le sait, qui peut être une machine d'asservissement comme une machine de grande liberté. Et ça, Benjamin en était profondément convaincu. Une machine profondément ambivalente, je disais tout à l'heure, la radio est un exemple parfait. Parfait parce que c'est cette grande porosité dont la radio témoigne et que Benjamin a essayé d'explorer à travers ce dont je parlais, ces lumières pour enfants, c'est le nom donné à ces contes radiophoniques pour enfants et adolescents, petite pièce expérimentale où il occupait la place du narrateur et il proposait, il interrogeait, il questionnait justement les auditeurs sur la manière d'interpréter l'histoire, en fait, le récit qu'il donnait à entendre. Et lui, la manière, j'insiste bien encore une fois, dans son analyse, dans son optique, le mythe n'est pas capable de cela, ne propose pas en tout cas cette dimension-là de réinterprétation subjective et de liberté possible. C'est-à-dire que le mythe est un enfermement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un univers clos où il y a une destinée assignée à chaque personnage avec une morale bien précise qui, d'une certaine manière, selon Benjamin, est incapable de s'ouvrir grandement en fait à la réinterprétation et du coup à l'émancipation. voilà, de manière concise, voilà peut-être un élément de réponse dans la figure du narrateur.
Oui, alors, par rapport à ça, simplement, bien sûr, alors, il y a le point de vue de Benjamin, là, que vous avez très bien résumé, mais la mythologie telle qu'on la connaît comme anthropologue, si vous prenez l'exemple, là, on en parlait des grandes épopées indiennes, Mahabharata, Ramayana, c'est pas un texte à la limite, c'est des milliers de réinterprétations locales, régionales, c'est un univers, si on prend l'Iliade et l'Odyssée, c'était une pédagogie, enfin c'est quelque chose qui marche sur plusieurs siècles.
Il faut peut-être distinguer aussi l'Occident, voilà. L'Orient, etc. Non, mais dans cette tradition-là.
Si on prend l'Iliade et l'Odyssée, ça a servi comme système éducatif jusqu'à d'autres pourraient le dire mieux que moi, jusqu'à je ne sais, c'est qu'à l'époque. Donc, alors s'il y a bien des personnages qui ne sont pas prisonniers de leur destin au départ, c'est bien certains des héros des mythes qui sont dans des histoires beaucoup plus compliquées que toutes les nôtres et d'autant plus ouvertes, alors comme dans les romans de science-fiction, qu'il y a mille possibilités d'intervention, de métamorphose, etc. Donc je crois qu'il avait une vision que vous avez très très bien résumée, mais qui en dit autant sur l'idée qu'on se faisait, que Benjamin et son époque se faisaient de ce qu'est un mythe, mais qui, il faut bien être honnête, ne correspond pas du tout, je pense, à la réalité des mythes. En fait.
Oui, j'ai du mal à trouver... ça marche là, oui. J'ai du mal à trouver des morales dans les mythologies. Et j'ai du mal à trouver de l'enfermement dans les mythologies. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui libère, au contraire, enfin, qui ouvre des perspectives. Et quant à la notion de morale, il me semble qu'elle est très judéo-chrétienne et qu'elle ne s'applique pas du tout au mythe.
Bah, finalement, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que dans un récit de science-fiction, la place de la machine peut à la fois relever du conte ou du mythe, selon le regard du lecteur aussi, c'est-à-dire selon ce que le lecteur vient y chercher, si c'est un repère vraiment mythique, figé, dans le sens de Walter Benjamin, ou au contraire, une critique, une remise en cause en perspective de ce que sera la place de la machine ou de ce qui est déjà la place de la machine. Allez, on a le temps pour une dernière question. On le prend. Oui. Madame ici, là. Voilà, merci. La dernière question de cette table ronde. Passionnante et difficile aussi.
Ça sera peut-être une ouverture.
Oui.
J'avais envie de parler du transhumanisme. Est-ce qu'avec un transhumanisme qui verra la fusion de l'homme et de la machine, on n'aura pas l'éclosion de nouveaux types de mythologie?
Oui, donc l'homme-machine mythologique. Quoi.
Voilà.
Pas mal du tout comme approche d'ouverture. Qui répond sur le transhumanisme? Allez-y.
Non, je veux bien répondre. Moi, je vais dire mon opinion. Le transhumanisme, et quand on connaît un tout petit peu ce qui se passe en robotique, c'est une totale supercherie. Enfin, c'est simplement pas d'actualité. Donc, je pense que les gens, si vous voulez, ce qui se passe, je crois que j'en parlais un peu avant, c'est un peu comme une partie de poker où des gens parlent de choses qui en bluffant et d'autres gens prennent position contre quelque chose qui n'existe pas et donc la valise en le prenant au sérieux. Donc je crois il faut voir si aujourd'hui s'il y a quelque chose qui marche moins bien que la moindre bicyclette, c'est un robot, ça n'a pas d'autonomie. Ça permet de faire des tas de choses, mais ça, c'est pas du tout. Donc, je crois que c'est un très beau récit de science-fiction, le transhumanisme, mais qui marche justement parce qu'il est, il se fait. Alors là, pas au sens des écrivains de science-fiction, c'est de la science-fiction pas en littérature.
Réponse des écrivains pour conclure.
Alors, je pense qu'avant le transhumanisme, il faudrait penser humanisme et que ça, c'est l'urgence absolue.
Très bien. Bon, on conclura cette table ronde alors sur cette expression d'humanisme, le retour à l'humanisme, en espérant que l'humanisme n'est pas un mythe, à savoir qu'il n'est pas fermé et qu'il peut être encore un conte, à savoir qu'on peut nous le raconter et l'interroger. Merci à tous. Merci à tous mes intervenants. Merci pour cette table ronde. Et puis bonne continuation dans ces utopiales qui battent leur plein.